insérer l'écran radiophonique, un scénario original de Julien Jean-Pierre. Merveilleux Monsieur Bébé. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre. Avant de commencer l'histoire proprement dite, j'ai fait un petit journal, si vous voulez, personnel, je vais vous le lire, en tout cas en vous en lire une partie, parce que j'écris mes petites impressions en même temps que j'écris l'histoire. Tout d'abord, merveilleux Monsieur Bébé, j'ai été assez ennuyé à cause du choix de la musique, parce que je voulais... Au début, c'était choisir une musique tout de même assez gaie, parce que l'histoire semblait, enfin en tout cas au départ, semblait gaie. Et puis je me suis rendu compte au fur et à mesure que j'écrivais, c'est que Monsieur Bibé vivait dans un monde où il côtoyait des gens qui étaient déjà morts, des fantômes, dans un monde qui n'existait déjà plus. Et que lui était le seul qui était vivant. Alors j'ai choisi une musique un peu triste, crépusculaire, mais je trouve que ça va très bien avec l'atmosphère de l'histoire, puisque l'histoire est très triste, en fait. Elle est très triste parce qu'il n'y a que Monsieur Bébé qui est vivant dans cette histoire. Tous les autres ne sont que des fantômes, des gens qui sont morts et qui vivent dans un monde qui n'existe déjà plus. J'ai eu beaucoup de difficultés pour écrire. Pour écrire, il faut avoir l'esprit serein pour pouvoir s'évader du monde qui vous entoure. Cette année, c'est une très mauvaise année pour moi. Je n'arrive pas à trouver mon calme, donc je n'arrive pas à écrire. Le sujet que j'ai trouvé ne m'intéresse plus, et je n'ai plus envie de le développer. Le résumé que j'ai commencé à faire n'est pas bon du tout. Je ne sais pas si je ne devrais pas tout laisser tomber. Ce dont j'ai le plus envie, c'est de ne rien faire. De toute façon, personne ne me force à écrire, et si je ne le faisais pas, ça ne se verrait pas. Peut-être devrais-je arrêter certaines choses, lire moins, arrêter les cassettes vidéo au mois de mai, ne plus aller chercher le courrier à la radio et changer les cassettes, lire un livre toutes les deux semaines, me coucher plus tôt, éviter d'aller au resto, peut-être faire une histoire une année sur deux. Une année, je l'écrirai et l'autre, je l'enregistrerai. Ce qui me permettrait, de temps en temps, c'est de faire des vidéos. Toutes ces choses ne font pas avancer mon histoire. Et je dois absolument ne pas laisser ce pauvre Monsieur Bébé comme ça. Il faut qu'il fasse quelque chose. La fin de l'histoire est déjà écrite. Donc, pour aboutir à cette fin, il faut faire le développement, le faire évoluer, le faire aller de l'avant. Malheureusement, je suis dans une espèce de bureau, mal foutu, mal à l'aise. Impossible de me concentrer là-dedans, dans un endroit si mal fait et qui est bruyant en plus. Mon pauvre Monsieur Bébé. Il faut qu'il arrive tout de même à la fin de son histoire. Et pour ça, il doit évoluer, aller de l'avant et d'une certaine façon sortir de mon cerveau pour qu'il puisse prendre son élan tout seul. J'ai été invité chez une charmante jeune fille à passer une soirée avec des amis. Elle habitait, et elle habite encore, la campagne dans le Beaujolais, une charmante petite villa. Malheureusement, ma folie et ma mauvaise façon de me comporter m'ont rendu ridicule. Comment, moi, un homme de mon âge, me suis-je comporté comme ça, devant des gens si charmants? J'ai dit des stupidités sur mes histoires. Je me suis enorgueilli de ce que je faisais. Je ne me suis pas rendu compte qu'on ne me prenait pas au sérieux et que j'étais stupide. Puis, après avoir dit des bêtises, la maîtresse de maison a eu l'idée, et ceci sûrement que le destin lui a donné l'idée de le faire pour me punir, de faire écouter une de mes émissions, une très vieille émission, écrite à la va-vite, pleine de défauts, de contresens et d'irréalité, etc. Je ne voulais pas. Mais tous ont voulu l'écouter. Ça a été la honte. Je me suis dit, ils ont vu qui j'étais en réalité et ce dont j'étais capable de faire, c'est-à-dire pas grand-chose. Ils ont vu l'imperfection, le peu de professionnalisme, les longueurs, les non-sens, la bêtise de tout ça. Ils ont ri, ils se sont moqués, et ils avaient raison. Aucune de ces personnes ne pourront plus prendre au sérieux ce que je fais. Pourtant, je suis sûr que certaines de mes histoires que j'ai faites sont bonnes et même très bien. Mais non, maintenant c'est fini. Pour eux, mes histoires, c'est ça. Bien sûr, tout ceci, c'est de ma faute. Il ne faut jamais parler de ce que l'on fait, ni les montrer, surtout à des connaissances. Le public doit toujours rester anonyme. Il ne doit ni avoir de visage, ni de nom. Chaque fois que j'ai voulu, c'est donner un nom au public, ça s'est mal passé. Une fois, j'ai voulu par amitié dédier une de mes émissions à une personne, un dénommé Yannick. Ça a été une énorme catastrophe. Pour finir cette soirée déplorable où j'ai essayé de me cacher ma honte, je me dis encore que je ne pourrais plus, à cause de ma bêtise, revoir ces gens qui sont si charmants. Ce sera ma punition. Punition parce que j'ai puni d'orgueil. Décidément, je ne sais pas me comporter dans la vie. Nous sommes le 28 février, il est 9h40. Je viens de finir un roman. Je ne sais pas quoi faire. Je passe des jours d'angoisse terrible qui me donne le goût de la mort. Chaque nuit, je me réveille avec un goût étrange. Je me sens là, triste. Je ne sais quoi faire et tout me fatigue. Jeudi, j'ai rêvé que j'étais sur une montagne très rocheuse, avec des rochers jaunes, roses. Je disais, car il y avait près de moi une personne, je lui disais, c'est pas possible que Rimbaud soit enterré là. Et je me suis réveillé en me disant que pour la première fois, j'ai fait un rêve où il était question de Rimbaud. Cette nuit, j'ai rêvé que j'étais à Paris, avec mon frère décédé et ma famille. Je ne les voyais pas. J'étais à Paris pour assister à un enterrement d'une personne que j'ai beaucoup aimée. Paris était triste et je crois qu'il pleuvait. Nous cherchions le lieu où avait lieu la cérémonie. Plutôt, c'était moi qui le cherchais et les autres me suivaient. Enfin, j'ai trouvé l'église. Après de lugubre marche dans Paris. L'église était grande. Il y avait foule, les badauds, barrières et un service d'ordre. Un garde m'arrête juste avant où j'allais me faufiler par la porte. Je lui dis qui je suis. Il me dit que je suis tellement jeune. Il regarde mes papiers pour me faire entrer. Et le rêve se termine ainsi. En fait, dans le rêve, je suis allé plusieurs fois dans l'église avec ma famille. Et à chaque fois, pour y aller, il fallait faire un très long parcours. Et on me demandait si j'étais capable de retrouver où était l'église. Je leur disais toujours, oui, bien sûr. Je vous écris tout ça. C'est après une grande déprime. Et puis je ne sais pas quoi faire. J'ai peur de perdre mon temps. Toujours la peur de perdre son temps. Il est vrai que la mort approche et me fait de l'œil. J'ai en préparation l'adaptation des Illusionnistes en vidéo. J'ai écouté la bande-son, marqué les décors différents qu'il faudra. Il en faut au moins une centaine décors différents, sans compter les images directes extérieures. J'ai cherché les photographies pour ces décors, mais malheureusement, je n'en ai pas trouvé. Alors j'ai décidé, c'est de faire des dessins pour chaque décor. Chaque dessin va me donner beaucoup de temps. Un temps fou. Surtout, comme je ne suis pas bien dessiné, et puis après les dessiner, il va falloir les colorier. Sans dessin. Des dessins grands comme deux fois une page de cahier normal. Après avoir dessiné et colorié, il faut découper ces dessins et les coller sur du papier bleu pour le chroma key, ce qui permettra d'ajouter des images animées aux images fixes. Travail de titan pour moi, et je ne sens pas le courage d'y faire. Alors en attendant, je fais le résumé de Monsieur Bébé. Ça me va et ça ne me va pas. Et puis, il faut que j'écrive cette histoire avec beaucoup de fraîcheur. Il faut qu'elle puisse couler comme l'eau d'un ruisseau. Malheureusement pour cela, il faut que mon humeur soit lisse et coule aussi comme un ruisseau. En ce moment, mon humeur ressemble plutôt à une mer déchaînée, par moments, ou à un corps qui se laisse emporter dans les ténèbres. Je dois dépasser mes dégoûts de vivre, retrouver une certaine sérénité pour me donner. Qui me donnera la clé pour que j'écris, j'entre dans le monde de mes rêves, de mes personnages? La seule chose qui peut me retenir à la vie, c'est mes rêves, mes histoires. Si je ne peux plus y rentrer, je suis perdu. Pour moi, la vie réelle, c'est l'échec de ma vie, la tristesse de la vie, la solitude, la méchanceté. La nuit, toujours la nuit. La vie que je mène ne me convient pas du tout. Donc pour pouvoir vivre, je dois absolument rentrer dans un monde que j'aurais imaginé, avec des gens que j'aurais créés et qui seraient ce que j'aurais aimé être ou que j'aurais aimé connaître. C'est vital que j'écrive ce monsieur bébé et fasse cette vidéo. Il faut que j'essaye de faire ce résumé de cette histoire. Je dois faire le vide en moi, oublier mes humiliations, mes ennuis, mes troubles. Il y a aussi une chose, c'est que j'avais prévu, c'est de faire les illusionnistes en premier, pour leur 20e anniversaire. Et oui, il y a 20 ans que j'ai écrit cette histoire. Mais comme je ne le peux pas, je suis pris entre de ne pas pouvoir faire cette vidéo et le résumé de mon histoire. Entre ces deux choses. Alors, je pense, mes pensées vont de l'une à l'autre. Ce qui m'empêche de faire quoi que ce soit. Voyons, du calme. Et voyons d'abord le résumé de l'histoire. La suite du journal, après. Une petite idée. Deux petites idées avant de finir ce journal. D'abord, les fêtes religieuses ne sont que des fêtes religieuses que les laïcs et les non-croyants veulent s'en emparer. Ils y rajoutent des choses. Ils ne font que rajouter des choses. Ces fêtes resteront malgré tout religieuses. Si l'on est laïque, on n'a pas à s'en emparer ni à faire ces fêtes. Les seules fêtes qui se perpétuent en règle générale sont les religieuses. Peut-être parce qu'elles sont vieilles de tradition et puis qu'elles font partie de notre culture. Comme la Noël qui a été une fête avant d'être catholique, une fête païenne et qui date depuis très très longtemps. Les fêtes laïques ont moins d'importance aux yeux des gens, peut-être parce qu'elles sont plus récentes et ont aussi encore eu l'objet de luttes partisanes politico-sociales. Elles sont peut-être moins fortes parce qu'elles elles n'ont pas l'aspect merveilleux que donne en plus une fête religieuse. Le merveilleux pour une fête, c'est quelque chose qui la rend plus forte. Et une fête où il y a du merveilleux sera toujours plus forte qu'une fête militante. Une fête militante est faite d'après des faits réels. La mort de Jésus. Dans ton mot, il est bien, on l'a bien retrouvé mort. Mais on ne l'a pas reconnu parce que la mort, la nuit, le corps a été défiguré, son visage a défiguré la mort. Les gens ont cru qu'il avait disparu, ressuscité ailleurs, et ont cru le revoir ailleurs. Les gens ont dit qu'ils l'ont vu Mais ils avaient pour ainsi dire raison, puisqu'ils ont revu en eux les pensées de Jésus. Jésus se dit le Fils de Dieu. Il ne ment pas, puisque tout ce qui vit est créateur de Dieu, donc Fils de Dieu. Et tout ce qui vit de Dieu est en lui. Dieu est en lui. Cela veut dire que Dieu s'est fait homme. Il s'est fait homme, l'homme mort. Lui est mortel. Jésus est mortel puisqu'il est devenu homme. Tout ce qu'il vit, mort. Jésus a vécu en tant qu'homme jusqu'à la fin de sa naissance, jusqu'à sa mort. Vieillesse égale temps qui passe. On peut mourir à tout temps de son existence. Si vous lisez les évangiles, que vous supprimez les miracles, ce qui reste, c'est-à-dire la parole, le discours, la leçon de vie, de ligne de conduite, c'est le plus fort. Les miracles, ce n'est que la cerise sur le gâteau pour les gens, où il leur faut plus que la parole pour croire à ces préceptes de vie. Ces préceptes de vie qui sont, disons, les droits de l'homme, comme aimer son prochain comme soi-même. C'est que, cela veut dire que l'on doit aimer l'homme, son prochain d'amour, et que l'on doit le respecter et qu'on doit lui faire justice. Pour finir mon petit journal, si vous voulez, Claude Santelli est mort en décembre 2001. Personne n'en a parlé. Pourtant, il était un auteur qui voulait apporter à tous la culture d'une façon agréable. Il était homme de télévision. La télévision qui s'appelait la RTF, puis l'ORTF. C'est lui qui a fait le premier feuilleton télévisé, qui était le Tour de France par deux enfants. Il a produit et réalisé de grandes dramatiques ou téléfilms. Il a fait des séries de qualité, comme Livre mon ami, Le théâtre de la jeunesse, Les 100 livres, etc. Il a fait des émissions de radio, du théâtre. Personne n'a parlé de sa mort. L'on préfère s'est médiatisé celle d'un Gilbert Bécaud qui a créé des chansons où les paroles étaient une phrase que l'on répétait constamment, comme L'important c'est la rose, ou d'un Coluche ou d'un Gainsbourg, qui ont été dans la prospérité. L'un pour avoir dit des blagues de comptoir, l'autre parce qu'il a brûlé un billet de 500 francs et adapté, je ne dis pas paraphrasé, des musiques d'autres. Rendons pour une fois hommage aux vraies valeurs culturelles. À Claude Santelli. Voilà, j'ai fini mon journal de présentation. J'espère que ça n'a pas été trop long. C'était tout de même assez court. J'espère que vous avez compris un peu. J'étais un peu dans le cirage, pardonnez-moi, mais ça démontre un petit peu dans quel état j'ai écrit mon histoire, merveilleux Monsieur Bébé. Vous allez entendre sur la musique du générique des pas, un homme qui marche. C'est un homme, vous imaginez un homme qui marche chez lui, dehors il pleut, et on entend au loin le bruit des manifestants. vous présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, Merveilleux Monsieur Bébé. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre. Je commence l'enregistrement de cette émission le 10 juin 2002 à 18h. Celui qui marche est celui qui sait, qui sait. Les temps sont durs. Le monde vit dans une misère noire. Les riches croisent des gens sans travail, domicile fixe, vivant en dehors de tout, de la société, des lois. Ils doivent vivre cachés, invisibles, parce qu'on leur fait la chasse. On les chasse comme si c'était des bêtes sauvages. Alors, ils se terrent dans les égouts, caves, greniers, immeubles. Immeubles prêts à être démolis. Ou dans les bois. Pour survivre, ils se nourrissent, font les poubelles, tuent des animaux domestiques ou sauvages, chiens, rats, etc. Boivent l'eau des rigoles. Le manque de soins, le climat, sans compter les tueries, le mauvais alcool fait de n'importe quoi, tout ceci les décime très jeunes. Mais attention, ceux qui réussissent à résister à tout ceci, à tout ça, deviennent très forts, très très forts. Les épreuves les mutent, ils sont moins fragiles à la maladie, plus forts pour se défendre. Ont leur sens plus rapide, leurs muscles plus souples. Ils reçoivent des informations plus vite et courent plus vite. La vie qu'ils mènent les rend plus forts que ceux qui ont une vie sociale dans du cocon. Et les gens sans domicile fixe, les rejetés de la société, parce qu'ils deviennent plus forts, prendront la place des autres. Une personne qui réussit à survivre dans des conditions très dures, extrêmes, est toujours plus forte qu'une personne qui a toujours vécu dans le luxe ou la facilité. Parce que la personne qui a vécu dans la facilité n'a pas eu à se battre pour se vivre et à laisser ses sens s'endormir. Et des sens endormis ont des difficultés à se réveiller. Lorsqu'il faut, il est trop tard. La nature a fait en sorte à ce que les rejetés, les humiliés, deviennent plus tard les nantis. Parce que pour la nature, la grandeur de l'homme ne vient pas de sa richesse sociale, mais des capacités qu'il a à survivre. Et puis, le monde est un éternel recommencement. Oui, le monde est un éternel recommencement. Les démunis, qui deviennent des nantis, deviendront faibles à cause de leur nouvelle vie et d'autres, démunis, les remplaceront, etc. Rome a été conquise par les barbares. les démunis de l'époque et les barbares qui sont devenus nantis sont en ce moment d'être conquis par des démunis de notre époque qui vont devenir de nouveaux nantis, etc., etc. Au cours des siècles et depuis toujours, la justice sociale s'est faite, même avant le mot social et droit de l'homme. Parce que le pauvre devient plus fort, parce qu'il a appris, ou plutôt ses sens ont appris, à survivre, à surmonter les épreuves de la vie. Tandis que celui qui a devient mou et perd ses défenses naturelles, etc. Et pour le moment, les gens qui n'ont rien, n'ont rien. Ils sont obligés, c'est de vivre cachés. Malgré qu'ils vivent cachés, comme ils sont de plus en plus nombreux, malgré qu'ils vivent cachés, comme ils sont de plus en plus nombreux, on en voit de plus en plus dans les villes. Ils sont maigres, sales, habillés de harde, même pieds nus, visage blanc, terreux, cheveux longs, pendants, le regard fixe, ne pense qu'à une chose, manger, manger. Les villes sont délabrées, sales, les immeubles, les façades sont, se dégradent et ont des trous de balles, des traces d'incendie. Les magasins, pour la plupart, les rideaux sont fermés. Les vitrines sans rideaux, les vitres sont cassées. Les quelques magasins qui sont ouverts, il y a la queue pour aller chercher la marchandise, comme pendant la guerre. Les trottoirs sont envahis d'immondices et d'encombrants. Où les chiens, chats, rats, oiseaux et même gens, pour voir s'il n'y a rien à manger. La chaussée est défoncée, peu de voitures roulent, les transports en commun, il n'y en a presque pas. Les voitures en stationnement sont des épaves qui ont pris feu ou ont été démolies. Il n'y a de l'électricité domestique que 2 heures par jour, à cause que l'on a fermé les centrales atomiques. Les gens qui marchent dans les rues sont tristes, mal habillés, même ceux qui ne sont pas des SDF. Dans chaque quartier, rue, il y a des palissades de chantier pour la construction d'immeubles neufs à grand standing. On y voit des grues, camions qui sillonnent la ville. Oui, des immeubles à grand standing. On voit des grues, camions qui sillonnent la ville, le bruit des chantiers. Ce n'est pas si sad. Il y a le nom du constructeur.
Harry, t'as déjà entendu parler de Ricole ?
Toujours c'est bien, c'est le même. Le même nom. Framblant. Framblant. Il reste malgré tout quelques quartiers résidentiels où les gens sont bien habillés, où tout est beau et propre. L'impression d'être dans un autre monde. Car malgré toute cette misère, il y a de très grandes richesses. Un luxe incroyable. Incroyable. La mondialisation a permis à certains et surtout à une personne de devenir l'homme le plus puissant du monde. Les gouvernements sont à ses pieds. C'est lui qui dirige le monde. Oui, c'est lui qui dirige le monde. Et cette personne, c'est Framblant. Il a le monopole de presque tout ce qui est vital. Propriété de terrain de plus en plus important et comme il a plus en plus de terrain, des villes lui appartiennent et ces villes deviennent privées et ceci dans le monde entier. Constructeur du meuble, premier constructeur du monde, il y a la compagnie des eaux aussi, la distribution et l'épuration des eaux. Les médias, télévision, radio, disques, cinéma, internet, etc., etc. Diffuseurs et producteurs pour les médias. Il y a aussi les produits agricoles, diététiques, biotechniques, la recherche médicale. Il y a des banques privées. Et l'on doit obligatoirement avoir la carte de la banque pour faire affaire avec lui, pour acheter ses produits. C'est-à-dire qu'avec avoir son compte en banque dans sa banque. Il y a aussi les transports maritimes, aériens, terriens, la fabrique d'armes. Police privée, armée privée, au service des États. Il y a les prisons, les écoles, les maisons de retraite, centres de loisirs, maisons de vacances, etc., etc. Framblant n'est qu'un maçon, comme il aime à le dire. Mais il a racheté les groupes Genetou, Diap, Riquin et Pontois. Ce qui fait qu'il est devenu tout puissant. C'est lui qui détient presque tous les emplois, car il est le seul à fournir. Au monde des emplois et à fournir du travail aux entreprises. Si une entreprise ne marche pas avec lui, elle est perdue.
Thank you.
vous avons présenté, dans la série L'écran radiophonique, un scénario original de Julien Jean-Pierre, Merveilleux Monsieur Bébé. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre.